Terrorisme est un mot difficile à définir et toujours utilisé avec mépris. Ce qui en fait un puissant cri de ralliement, mais aussi un terme totalement inutile pour décrire les événements réels avec quelques degrés de précision. Pendant le djihad en Afghanistan, leur président Reagan nous appelait les combattants de la liberté. Et à mon avis, la seule chose qui ait changé entre cette époque et l'époque actuelle, c'est de savoir quel est le grand empire qui a renié ses principes révolutionnaires fondateurs. Le combattant de la liberté d'hier est l'islamo-fasciste d'aujourd'hui. Les Américains étaient ravis qu'on tue les communistes et ils fermaient les yeux sur les méthodes employées. À la seconde bataille de Zawar, nous avons coupé de nombreuses têtes soviétiques. La récitation dit assez clairement que c'est un excellent moyen de remplir d'effroi le cœur de l'ennemi. Ce n'est pas propre à nous. La décapitation en appelle aux peurs et aux faiblesses ancestrales. Et c'est la pure itération du « j'ai raison et tu as tort » qui s'est appliquée au fil des siècles comme sentence impériale et outil dont les empires se sont servis pour attiser dans les cités-états la haine des sauvages. Je me souviens d'avoir lu quelque part que 60% des squelettes japonais retrouvés dans le Pacifique Sud n'avaient pas de tête, lesquels, pensait-on, avaient été emportés comme trophées.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En avril 2003, les forces américaines sont arrivées à Bagdad sans rencontrer beaucoup de résistance après les pilonnages aériens qui ont détruit l'armée de Saddam Hussein, présentée pourtant comme la quatrième du monde. Tandis qu'on cherche encore les fameuses armes de destruction massive inventées par le Pentagone, les soldats pillent les palais du régime en quête d'objets précieux et de souvenirs à rapporter chez eux. Mais, au fil des semaines, cette guerre, apparemment si facilement gagnée, va prendre une tournure imprévue avec les engins explosifs, les kamikazes et les embuscades d'un ennemi sans visage opérant au nom d'Allah contre les envahisseurs étrangers. Brian Van Riet avait 20 ans au moment du 11 septembre. Il s'est engagé dans l'armée pour défendre son pays attaqué. Mais était-ce bien contre ses véritables agresseurs qu'il s'est retrouvé à combattre en Irak en 2004 ? Cette question, dit-il, tous ses camarades de sa compagnie de chars se la posaient un jour ou l'autre. Le fer et le feu, traduit par Michel Lederer et publié aux éditions de l'Olivier, est un roman à trois voix. Celle d'un simple soldat, spectateur dépassé de cette guerre, celle d'une jeune femme capturée par un groupe djihadiste et celle d'un des chefs de ces combattants, vétérans de l'Afghanistan, armé autrefois par les États-Unis contre les Soviétiques. C'est un livre désenchanté sur l'absurdité féroce de ces conflits. Bonsoir Brian Van Riet. Après le 11 septembre 2001, vous avez quitté votre université de Virginie pour vous engager dans l'armée, comme beaucoup de jeunes gens à l'époque. Vous aviez des idées précises sur ce que signifiait cet engagement dans une armée qui s'apprêtait à entrer en guerre contre un pays lointain comme l'Irak ?
Hello. Quand
je me suis engagé, je crois que je ne comprenais pas très bien là où j'allais. C'était une impulsion, une décision que j'ai prise comme ça sans peut-être trop réfléchir. C'était une décision chargée d'émotions. Je n'ai peut-être pas suffisamment réfléchi. Et en tout état de cause, je ne me suis pas engagé pour soutenir la politique étrangère de George Bush. Non, je me suis engagé pour me mettre moi-même à l'épreuve parce que je n'étais pas très heureux dans ma vie. Et l'armée était une sorte d'exutoire pour moi. Et je me suis engagé parce que j'étais un jeune homme en colère qui voulait se battre. Et puis dans ma famille, on a tendance à vouloir se battre sous les drapeaux. Donc ça a joué un petit rôle aussi. J'avais 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, on prend parfois des décisions qu'on ne comprend pas soi-même.
Au début de votre livre, Le fer et le feu, Brian Van Riet, on voit un jeune soldat Il s'appelle Slid, il est dépassé par les événements et il constate que la guerre ne correspond pas du tout à ses idées héroïques, se battre pour son pays. Là, ce qu'il voit, ce sont des destructions. Il ne voit jamais son ennemi en face. Quand il arrive, l'ennemi est mort, carbonisé généralement. Est-ce que finalement, ce Slid, dans ce roman à trois voix, c'est celui qui porte le plus vos premières impressions lorsque vous êtes arrivé vous-même en Irak en 2004?
Slid is the character whose experience of war matches up.
L'expérience de la guerre du personnage de Slid est la plus proche de la mienne d'un point de vue littéral. D'un point de vue spirituel, par contre, je ne m'identifie pas à Slid. Les protagonistes représentent des facettes de ma personnalité, mais Slid vit des choses dans le livre que j'ai vécues moi-même. Il est désenchanté. Moi, j'ai senti ce désenchantement. Il y a des gens qui se font une idée de la guerre, particulièrement les Américains, que l'on reflète dans le mythe du franc-tireur ou du sniper, l'occasion de faire montre de précision. Et on pense que l'entraînement va vous sauver. Moi, je me suis aperçu du contraire. Celui qui vit, celui qui meurt, tout ça, c'est aléatoire.
It's more or less,
c'est un coup de dé. Si on est au mauvais endroit au mauvais moment, eh bien, on ne va pas survivre. C'est le hasard. Et Slid se rend compte de cela assez rapidement.
On va justement écouter une première lecture de votre livre, Brian Van Riet. C'est le moment où le soldat Slid découvre les réalités de la guerre dans le désert, avant même d'arriver à Bagdad.
Holy shit! What?
Je ne pourrai jamais oublier. Ce jour-là, il n'y avait pas un seul être vivant dans le désert qui, lui, ressemblait à la face d'une planète morte décapée à la sableuse. On a fait une pause et on s'est ravitaillé en carburant, et pour tuer le temps, on s'est baladé près d'une colonne de blindés irakiens détruits sur le bord de la route. S'il faut choisir un point de départ, admettons qu'il se situe là. À ce moment, on a estimé qu'on ne pouvait pas se contenter des images inscrites dans notre mémoire. Galvan et Fitzpatrick, et je dois dire moi aussi, on voulait des souvenirs pour nos futurs petits-enfants. Un casque ou une baïonnette à rapporter à la maison pour prouver qu'on avait participé à ce merdier. Le problème, c'est que tout dans les chars avait brûlé ou fondu. Et leurs équipages aussi. Galvan avait déjà pris quelques photos avec l'appareil numérique qu'il trimbalait partout depuis qu'il l'avait acheté à New York, sans doute dans ce but. Il a pris plusieurs clichés d'un type, puis il s'est approché pour un gros plan. Les dents de l'homme étaient noires comme du charbon, ses mains pareilles à deux serres plantées dans le sable. L'incendie l'avait tellement chauffé qu'il crissait comme une mince pellicule de glace quand on marche dessus. Je n'avais jamais vu une chose pareille dans ma vie, et putain, la guerre m'a semblé tout à coup vachement réelle. J'ai ressenti un sentiment bizarre qui ne m'a jamais quitté depuis. C'est difficile à décrire, mais c'est un peu comme savoir que la moindre décision, même pour la chose la plus banale, choisir quoi manger au petit déjeuner, quel chemin prendre pour aller faire les courses, débouchera ou non sur votre mort, ou sur la mort de quelqu'un d'autre, et ce de manière imprévisible. Et puisque tout est de la même importance, il ne sert à rien de s'inquiéter de tout. Photographier des soldats morts fait partie des zones grises du droit de la guerre. Permis ou non, tout tient au contexte. Par exemple, un correspondant de guerre aura l'autorisation de prendre des photos, car ce sera considéré comme une part de son travail, alors que les mêmes photos vaudront la prison au simple soldat. On peut tuer en toute impunité, mais on ne peut pas photographier ce qu'on a tué. Je comprenais. Une fois qu'on a commencé à collectionner les trophées, ne serait-ce que des photos, l'emmerdant, c'est qu'on ne peut plus s'arrêter.
Brian Van Riet, lorsque vous êtes arrivé à un peu plus de 20 ans en Irak, sur le champ de bataille, pour voir des scènes comme celles que vous décrivez dans les pages de votre livre, on imagine volontiers que vous n'aviez pas à chaud le temps de penser à ce que vous voyez. Il fallait survivre. Il vous a fallu du temps, après votre retour aux États-Unis, pour digérer cette histoire, pour la mettre par écrit, pour finalement retrouver le fonctionnement de votre cerveau et de votre esprit critique.
When I first came back, I think the first emotion you experience is elation.
À mon retour, la première émotion que j'ai ressentie, c'est une joie immense. Ça, ça a duré quelques mois. Et évidemment, après, on redescend. Et pendant une année environ, j'étais déstabilisé. J'avais du mal à réintégrer ma vie habituelle. Ce qui m'a aidé, c'est la reprise des études. En 2006, après avoir quitté l'armée, je me suis remis à des études d'anglais, ça m'a structuré, ça m'a aidé. Et puis ensuite, s'agissant de l'écriture, j'ai toujours aimé écrire. Avant même d'être soldat, je pensais que je pourrais peut-être être écrivain. Quand j'étais sous les drapeaux, je n'ai pas beaucoup écrit en dehors de la correspondance, mais après j'ai commencé à écrire des récits, des expériences vécues. Puis en 2007, j'ai commencé à écrire des nouvelles sur la guerre. J'ai eu de la chance parce que certaines de mes nouvelles ont été publiées. Et ce roman, je me suis mis à l'écrire en 2010. Il m'a fallu environ 5 ans pour écrire ce livre. Au début, j'avais certaines idées que j'ai jetées sur le papier et puis que j'ai complètement jetées au bout du compte parce qu'elles n'étaient pas bonnes. Mais au fil de toutes ces années, certaines de mes réflexions sur la guerre n'ont pas changé. J'avais l'impression que même sur place, ce que l'on faisait était contre-productif et c'était même mal de faire ça. Et ce sentiment m'habite encore. En tout état de cause, j'ai beaucoup appris de choses sur l'histoire contemporaine, ce qui me permet de contextualiser mon expérience. Ah, j'ai beaucoup appris de ce point de vue-là.
Mais si je comprends bien ce que vous venez de dire, Marianne Van Riet, à votre retour, vous étiez pas mal différent de ce que vous étiez en partant. Vous aviez perdu des illusions, vous aviez gagné cette envie d'écrire. Même si c'est terrible de le dire, est-ce que vous avez l'impression d'être devenu quelqu'un de meilleur après votre expérience terrible de cette guerre en Irak et malgré le fait que vous êtes très critique sur la guerre?
I have come out of the war pretty well. I wasn't wounded.
À vrai dire, je me suis pas mal sorti, moi, de cette guerre. Je n'ai pas été blessé. Je ne me considère pas comme étant traumatisé, bien que ce retour n'ait pas été facile. J'ai écrit un livre, publié en France. Me voici en France, je vous en parle. C'est formidable, je ne peux pas me plaindre de cette expérience. Mais à l'évidence, la guerre a détruit la vie de très nombreuses personnes. Donc moi, je suis ambivalent quant à mes sentiments. À certains égards, cette guerre m'a enrichi, m'a renforcé peut-être, bien que je n'en sois pas sûr. J'ai l'impression que j'aurais pu gagner en discipline en dehors des rangs de l'armée, alors que bon, l'armée m'a donné un coup de pied au cul et ça n'a pas fait de mal. Mais c'est compliqué.
I came out of it okay, but I'm
well aware. Comme je vous dis, je m'en sors pas mal, mais je suis bien conscient que c'est pas le cas de tout le monde. Au contraire, il y a des gens qui ont été embringués là-dedans, non pas par choix, mais par obligation. Moi, j'ai eu le choix. Les Irakiens n'ont pas eu le choix. Le livre reflète cela. Les trois grands personnages ne sont pas irakiens. Ils ont tous trois choisi de se rendre en Irak pour s'engager dans les rangs des militaires. Certes, il y a des personnages irakiens dans le livre, mais ils sont plus piégés dans cette situation. C'est le cas du narrateur arabophone.
Van Riet, on le disait il y a un instant, de ces trois voix que vous avez choisi pour raconter cette guerre à laquelle vous avez participé, ce sont trois voix d'étrangers. Il y a deux soldats américains, il y a un Mujahideen qui vient d'Égypte, lui. La deuxième voix américaine, c'était pas très simple de la choisir parce que c'est celle d'une femme. Pourquoi est-ce que vous vous êtes résolu à mettre la barre si haut pour vous, pour un premier livre?
Cassandra
est policière militaire, donc elle est dans un Humvee, elle fait partie d'une unité de combat. Pour moi, c'était difficile que d'adopter la voix d'une femme. Dans mes premières idées que je me faisais à propos de ce livre, il n'y avait pas ce personnage féminin. Il n'y avait que le personnage de Slade. Mais cette version-là ne fonctionnait pas pour moi. L'histoire était trop étriquée. Par conséquent, Cassandra est arrivée. Elle sortait en fait d'une nouvelle que j'avais écrite. J'ai commencé à écrire avec la présence de Cassandra et puis, évidemment, elle a pris une part prépondérante dans le récit.
Alors, Brian Van Riet, cette Cassandra se retrouve donc prisonnière d'un groupe de djihadistes, mais vous en profitez pour montrer que lorsqu'une femme se retrouve confrontée à des hommes en guerre, ou pas en guerre d'ailleurs, elle a les mêmes problèmes à affronter, que ce soit dans le camp américain ou dans le camp des Mujahideens. Quand elle quitte la base, elle est tracassée parce qu'une de ses amies s'est fait violer et elle trouve que ses camarades soldats masculins en parle d'une manière absolument répugnante. Et quand elle va être prisonnière des djihadistes, elle va être aussi en butte à des désirs bestiaux de la part de ses combattants pour qui elle n'est qu'une femme impure. Est-ce que vous avez voulu mettre en parallèle justement ce problème de la relation homme-femme, puisqu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de femmes dans des postes de combat aussi?
You know, the first instance of sexual violence that you encounter in the book,
la première incidence de violence sexuelle est du côté américain, américain contre américaine, dans mon livre. Donc je ne voulais pas être caricatural et dire voici un homme arabe qui viole une femme américaine. Non, elle est menacée par tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, leur origine, la couleur de leur peau. Autre, c'est une autre guerre. Il y a la guerre entre les armées et la guerre entre les sexes, en l'occurrence. Et moi, j'essaye d'expliquer comment un conflit genré fait partie de la guerre.
Some of the earliest stories we have about war, going back to the Greek stories like the Odyssey.
Premier récit de guerre, l'Odyssée. Il est question d'une femme capturée ou qui s'est échappée, ça dépend de la version que l'on adopte. Mais cet aspect-là de la guerre ne vient pas forcément à l'esprit, cet aspect genré de la guerre. Pourtant, ça fait partie. Je crois que les hommes ont évolué de telle sorte qu'ils sont aptes à se battre, mais il ne faut pas regarder la société selon l'évolution de l'espèce humaine. La société doit s'organiser selon des droits, des libertés, et les femmes devraient avoir le droit et la liberté de s'engager sous les drapeaux au même titre qu'un homme, à condition de répondre aux conditions nécessaires. Je suis satisfait que ça soit comme ça. Aujourd'hui, les gays peuvent aller rejoindre les rangs des militaires, et c'est une bonne chose, à mon avis. Donc, l'armée constitue une espèce de laboratoire d'intégration sociale ou d'évolution sociale, et il est démontré dans l'armée que des gens d'origine différente ou de classe sociale différente ou de genre différent peuvent travailler ensemble et ramper dans la boue ensemble. C'est une bonne chose.
Brian Van Riet, est-ce qu'on a raison de lire votre livre en se disant qu'au fond, il n'y a pas de camp du bien et de camp du mal? Il n'y a pas d'homme en armes ayant une morale d'un côté et d'autre n'en ayant pas de l'autre? On a l'impression, surtout quand on pense à ce qu'on sait sur ce qui s'est passé à Abu Ghraib, que les tortures que Cassandra va voir lorsqu'elle va être prisonnière et même une décapitation, ce n'est pas pire que ce qui se passe de l'autre côté. D'ailleurs, à un moment dans le livre, vous dites que 48 heures suffisent pour transformer des hommes en bêtes. Donc, est-ce que votre livre, c'est pour dire que, quel que soit le côté, la guerre transforme les hommes, même lorsqu'ils viennent de pays soi-disant développés, avec une morale, en bêtes?
Yes, I think It's easy to lose your
oui.
sense of right and wrong
on peut
in
perdre
war, no matter what your background or
son sens du bien et du mal, quelle que soit son origine et quelles que soient les bases morales que l'on croit avoir. Pour moi, dans mon esprit, il y a quand même une notion fondamentale de bien et de mal. Moi, je suis pas moraliste, mais il y a certaines choses qui sont plus meurtrières et malfaisantes que d'autres. Et dans mon livre, à un moment, les soldats américains tirent sur des civils irakiens par erreur. Ces gens-là, peu importe qu'il s'agisse d'un accident ou d'une erreur, mais en fait, le gouvernement américain a délibérément lancé cette guerre, sachant qu'il y aura des pertes civiles. Donc on appelle ça les dommages collatéraux. C'est un euphémisme qui explique que quand il y a un bombardement, il y a des cibles, et autour de ces cibles, il y a des civils. On sait qu'ils vont mourir, mais on est prêt à accepter ce prétendu dommage collatéral. Pour moi, ça, c'est mal. Est-ce aussi mal que de rentrer dans les tours jumelles avec un avion, de capturer des prisonniers et de faire du chantage? À mon avis, c'est l'intention qui est la plus malfaisante. Mais encore une fois, il y a un spectre d'aspects moraux et les choses ne sont pas manichéennes. Il y a tout un tas de zones de gris. On ne sait pas qui fait le bien et qui fait le mal. Ça dépend de quel côté on se trouve.
Ça,
c'est l'un des problèmes du mot terrorisme.
It totally depends on your conception of
dépend de la conception que l'on se fait de qui fait le bien et qui fait le mal. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, eh bien cette personne-là sera le terroriste. Alors, encore une fois, il y a des choses qui sont plus meurtrières que d'autres. Et dans les années 80, il y avait donc les soldats de la liberté en Afghanistan contre les soviétiques, et bien ces gens-là sont devenus des terroristes. Et alors que les techniques étaient les mêmes, c'était les mêmes gens.
Alors, vous le disiez il y a un instant, Brian Van Riet, les trois voix de ce livre sont des voix d'étrangers. Les Irakiens sont les dommages collatéraux. Ils meurent généralement dans votre livre. Ils n'ont pas voix au chapitre et des guerres d'étrangers se déroulent dans leur pays. On va écouter la lecture d'une page de votre livre. C'est Cassandra qui se rappelle la formation qu'elle a eue avant d'arriver en Irak.
Cassandra se rappelle l'un des briefings qu'on leur a infligé à Camp New York. Comprendre le mode de pensée arabe. Une leçon militaire classique, enseignée à l'aide de planches PowerPoint et assurée par un officier des relations publiques venu en avion du commandement central donner des cours aux recrues. Il leur a parlé du fatalisme des Arabes, du martyr et de la manière dont ils s'adaptent aux croyances de l'islam, et aussi des cinq piliers, du djihad, du hajj, de la Kaaba, ce cube noir dont on fait cette fois le tour, et puis des cinq prières quotidiennes, de l'interdiction de manger du porc et d'adorer des images, etc. La preuve est dans le langage, avait affirmé l'officier. Les Arabes pensent que rien n'est fait par hasard, car pour eux, le hasard n'existe pas. Tout est prédéterminé, tout découle de la volonté divine. La conclusion, bien peu convaincante, était arrivée sous la forme d'une bulle sur la dernière diapositive PowerPoint, suivie de « Une bonne compréhension du mode de pensée arabe sera la clé qui vous permettra de gagner le cœur arabe ». À présent qu'elle faisait face aux champs desséchés et craquelés, à l'eau empoisonnée stagnant dans le canal, aux tas d'ordures fumants dégageant une fumée orange et probablement chargée de particules de métaux lourds, elle se dit que, au fond, l'officier des relations publiques ne comprenait pratiquement rien à ce pays et à ses gens. Comment l'aurait-il pu ? Il avait lui-même reconnu qu'il n'était jamais allé en Irak. Ses connaissances, il les tirait de livres et de briefings qui n'étaient certes pas inutiles. Ses cours avaient appris à Cassandra bien des choses qu'elle n'aurait pas su autrement. Mais rien dans ce qu'il avait dit du conflit entre chiites et sunnites, ou des coutumes islamiques, ne permettait de se figurer la réalité de la vie dans une hutte en terre au bord d'une route. Ce que c'était d'accoucher de monstres mort-nés aux membres difformes, à la moelle épinière à nu. Tout en sachant qu'ailleurs dans le monde, des gens plus chanceux vivent dans le confort et la sécurité. Ce qu'ils sont en mesure de constater parce que la télévision est partout, même ici, et qu'on n'a pas besoin de la regarder beaucoup pour se rendre compte que l'endroit où vous êtes né, c'est l'enfer. Comme s'il avait été créé par quelque obscure puissance maléfique. Et on a beau apprendre quels sont les cinq piliers de l'islam, on n'est pas pour autant capable d'expliquer une saloperie pareille.
Brian Van Reed, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a évidemment un peu de vous dans les trois personnages. Donc dans celui de Cassandra, on imagine bien que ce genre de réflexion, ce sont les vôtres. Vous aussi, on vous a raconté deux, trois choses sur l'Irak avant d'y aller. Et en arrivant, vous avez juste découvert que personne ne comprenait rien à ce pays et qu'en tout cas, l'armée du bien ne apportait pas le bien là-bas.
Yes, I think the passage that was just read is...
L'extrait qu'on vient d'entendre porte sur cette formation qui est une espèce de prise de conscience culturelle. Moi-même, j'ai reçu cette formation. C'était assez bien d'apprendre des choses sur l'islam et différentes coutumes. Mais par ailleurs, c'était tout de même ridicule parce que nous étions dans les blindés, et moi, pendant plusieurs années, j'avais reçu une formation au Texas, à bord de chars, comme si on était face à une armée conventionnelle. Puis, au moment du déploiement en Irak, on n'était même pas dans nos chars, on était dans un véhicule blindé léger, un Humvee, en interaction avec la population. Et en fait, j'avais plus un rôle de policier que de soldat. Me voilà auprès d'une population, je ne parle pas la langue, je ne comprends pas la culture, ou de façon très très superficielle, pour ainsi dire, pas du tout. Et en fait, moi j'étais peut-être plus curieux face à cette culture que mes camarades. Certains étaient des racistes et qui étaient ravis d'être là pour tuer les Irakiens et pas pour les aider. Hein. Donc c'était une situation extrêmement désagréable pour moi. Et moi j'avais l'impression d'avoir mis un uniforme de policier et de devenir policier du jour au lendemain. Situation particulièrement détestable. Et je dois dire qu'on n'a pas fait du très très bon boulot dans tous les cas de figure.
Brian Van Reed, votre troisième personnage, Abu al-Houl, qui est un des chefs des djihadistes que les Américains combattent, vous le décrivez avec une certaine empathie. C'est un garçon qui vient d'Égypte, il a fait des études à l'université, il connaît l'Occident, il est allé en Angleterre. Et lui non plus ne se soucie pas énormément des Irakiens, mais vous en avez fait un personnage avec une morale. C'est un des anciens moudjahidines d'Afghanistan, donc que les Américains ont soutenu à l'époque où ils combattaient les Soviétiques, qui se retrouve à nouveau à essayer de repousser les étrangers. Mais lui aussi combat en Irak, c'est pas son pays, il ne se soucie guère des Irakiens. Au fond, il y a des parallèles dans vos personnages, quel que soit le bord sur lequel ils s'affrontent. Ils sont là aussi à mener des guerres d'étrangers dans des pays qu'ils dévastent, au nom d'une morale qui n'a peut-être pas cours à l'endroit où ils sont. Comment vous avez abordé le personnage d'Abu al-Houl?
I'm glad you picked up on that thread in the book.
Merci d'avoir évoqué cela. Les personnages sont en effet tous à la recherche de quelque chose. Ils sont tous volontaires. Alors que dans la plupart des cas, quand on est en guerre, on n'a pas le choix. Mais ce n'est pas le cas de mes personnages. Ce personnage d'Abu al-Houl, des traits psychologiques comparables à ceux du jeune homme que j'étais. Il est volontaire pour aller en Afghanistan vers l'âge de 20 ans. Il vient d'un milieu social plus privilégié que moi, de classe moyenne supérieure, si vous voulez. Il a pas mal de points communs avec certains leaders du mouvement. Al-Zahiri, qui était le bras droit de Ben Laden. Donc voilà un Égyptien, il a fait des études pour devenir médecin, il est loin d'être ignorant,
pensent
que l'extrémisme se nourrit de la pauvreté et de l'ignorance. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'ignorance et la pauvreté jouent un rôle dans la formation de l'extrémisme, mais l'extrémisme est néanmoins choisi par certaines personnes qui ne sont ni pauvres ni ignorantes. Donc, moi, quand j'écris ce récit, il faut que je rassemble des détails suffisamment convaincants pour montrer que je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un expert de l'islam, je ne suis pas un expert de la guerre sainte. J'ai lu, évidemment, et j'essaie de créer l'illusion que je connais les choses. Je crois connaître un petit peu la psychologie d'un personnage comme ça pour en faire une description convaincante. Il faut mettre en place des détails convaincants au bon moment pour créer cette illusion. Après tout, c'est de l'artifice, l'écriture. C'est un exercice de création artificielle.
Et puis vous montrez, Brian Van Riet, le basculement des méthodes de ces djihadistes quand ils se rendent compte de l'importance des images, des chaînes de télévision continues, du poids de ce que les gens peuvent voir. On avait vu les photos d'Abu Ghraib, ça a été un tournant dans l'engagement des Américains en Irak. Et là, au fond, quand ils décapitent un de leurs otages, ce n'est pas tant parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils sont cruels, c'est pour le filmer, c'est pour que tout d'un coup leur groupe devienne un groupe important, qu'on leur donne de l'argent et des armes, et surtout que ça impressionne l'ennemi en face. Les images ont changé la façon d'aborder la lutte.
Oh yes, very much. People say that Vietnam was the first televised war.
Il y a des gens qui disent que le Vietnam c'était la première guerre télévisée. Ces guerres-ci sont des guerres télévisées par les gens qui sont au combat, des deux côtés. Moi, j'étais en Irak depuis quelques semaines lorsqu'il y a eu ce scandale d'Abu Ghraib. Et vous l'avez dit, c'était un moment très important. On a senti la bascule dans l'opinion publique après que ces horreurs ont été dévoilées. À la même époque, à peu près, en 2004, il y a eu donc ces décapitations télévisées. Et moi, évidemment, je pensais à cela lorsque j'étais là-bas. C'était effrayant, il n'y a pas d'autre mot.
Et c'est la façon dont a war if you don't have fighter planes or cruise missiles.
Si on n'a pas d'avions de chasse ou de missiles de croisière, il faut utiliser les moyens dont on dispose. Donc, il y avait des armes, des explosifs improvisés, il y avait de la propagande, les différentes techniques qui sont employées lorsqu'on n'a pas des gros moyens militaires.
Et
dans notre société libre, lorsqu'il y a une prise d'otage, il faut que les journalistes fassent leur travail.
Donc,
mais en faisant leur travail, les journalistes font le travail de l'ennemi. Difficile d'arriver à un bon équilibre, évidemment, parce que il faut la liberté d'expression. Nous. Moi, je voulais intégrer l'importance de ces images, de ces aspects-là de la guerre. C'est crucial pour comprendre la guerre.
Brian Van Riet, avec ce livre, vous êtes un ancien soldat devenu écrivain. Est-ce que vous êtes en train d'écrire quelque chose d'autre ?
Right now, I'm working on another novel that opens
je travaille sur un autre roman qui débute par une tuerie dans une école à la fin des années 90, similaire à ce que l'on a connu à Columbine. Je traite des thèmes de la violence qui me hantent pas mal. Donc, j'écris à propos des choses qui me déstabilisent. À vrai dire, c'est un soulagement que de ne plus écrire sur la guerre. Parce que c'est un sujet assez lourd. Quel que soit le sujet que l'on aborde, on se plonge dedans et maintenant, je suis ravi d'aborder des thèmes différents.
Merci infiniment, Brian Van Riet, d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que Le Feur et le Feu, traduit par Michel Lederer, c'est aux éditions de L'Olivier. Il me reste à vous souhaiter une bonne vie d'écrivain, sans guerre, et à remercier Xavier Combes pour son excellente interprétation, comme d'habitude. Merci, au revoir.
Merci.
C'est terminé pour cette humeur vagabonde de cette semaine, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons samedi prochain aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.